Bonjour et bienvenue, c'est la parole aux jeunes sur IDFM Radio, média social de proximité, à écouter en FM 98.00, web radio 98.fr, DAB+, pour toute l'Île-de-France et sur notre appli Android. Jacqueline Voroz avec Francky. Bonjour Francky. Aujourd'hui, 1er février, nous accueillons la mission locale Valais-Montmorency avec dans notre studio Grégory, Eva, Nassim, Benjamin et bien sûr Laïssa, responsable de communication qui les accompagne. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Des voix essentielles qui portent les préoccupations et les passions de leur génération. Parce que leur regard éclaire notre présent et dessine notre avenir, ils vont nous partager ce qui les touche, les inspire ou les questionne au quotidien.
IDFM, 98FM.
Et voilà, nous démarrons donc cette émission. On fait un tour de table. Grégory, je te laisse te présenter.
Bonjour à tous. Je m'appelle Grégory, j'ai 20 ans, je suis suivi par la mission locale. Et
alors, qu'est-ce que tu en attends de la mission locale ?
Et là, en ce moment, je suis à la petite boutique.
Oui.
Et je cherche ma voie.
Ouais. Très bien. Oui, il faut bien parler en face du micro. Merci. Merci, Grégory. Eva.
Bonjour à tous. Je m'appelle Eva. Je suis à la mission locale depuis octobre 2025. Ce que je recherchais avec la mission locale, c'était de m'insérer dans la vie professionnelle en tant qu'artiste auteur et en attendant de trouver un emploi pour avoir une première expérience professionnelle ou de trouver un stage.
Alors, dis-nous dans quelle activité tu es, Eva ?
Les stages, ça peut être tout ce qui est la culture essentiellement, les librairies, la médiathèque.
Très bien. Merci Eva. Nassim.
Bonjour à tous, je m'appelle Nassim. Pour l'instant, je suis suivi par la mission locale depuis quelques mois pour essayer de trouver ma voie, pour l'instant dans la recherche de stages ou de formation dans quelques domaines qui pourraient m'intéresser.
Très bien. Merci Nassim. Et Benjamin ?
Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis à la mission locale depuis 2023. Je suis à la mission locale pour rechercher une formation qui prenne en compte l'handicap dans la vente.
Très bien. Merci Benjamin. Alors, on va démarrer cette émission avec Grégory. Grégory, quel est le thème dont tu as envie de nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un thème, on va dire, est-ce qu'un homme doit être fort ? Cette question, elle est vraiment vaste, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'homme, dès notre enfance, on va dire, un homme, ça doit être fort.
C'est ça, il y a des stéréotypes, hein, dès le plus jeune âge, qui veulent que l'homme soit fort et... Il ne doit pas pleurer, ne doit pas montrer ses émotions. C'est un petit peu ça que tu veux nous dire ?
Oui, c'est un petit peu ça, on va dire. Parce que dès l'enfance, on nous met dans notre tête ce stéréotype qu'un homme, ça doit être fort mentalement, physiquement. Un homme, ça doit montrer l'exemple. Mais qu'est-ce qui nous dit ça ? Qui nous apprend ça ? Pourquoi depuis des temps, les anciens temps, tout ça, on me dit « Ouais, un homme, ça doit être comme ci, comme ça. » Un homme a le droit, je pense pour moi, de pleurer, d'avoir des sentiments, d'avoir des émotions.
Aujourd'hui, tu penses qu'il y a des vrais clichés et que tu aimerais qu'on puisse déconstruire ces clichés ?
Oui, je dirais.
Alors, on peut peut-être parler de... En préparant donc cette émission, on a parlé quand même du patriarcat, hein, qui est une... C'est un petit peu ce qui gouverne notre société. Et une éducation depuis, comme tu l'as dit, la nuit des temps. Donc c'est pas simple à déconstruire une telle, ces stéréotypes. Toi, tu voudrais qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour arriver à remettre les choses d'une façon différente ?
Déjà, personnellement, je dirais qu'on laisse plus la parole à aux jeunes hommes, aux jeunes qui sont des hommes et tout ça. Je dirais plus en ce moment qu'on arrête de nous mettre dans la tête, nous les hommes, qu'on doit être fort mentalement et tout ça.
Ouais, ça te dérange. Laïssa, je crois que tu voulais nous dire quelque chose.
Ouais, je trouve ça important ce que Grégory dit, parce que oui, on parle de patriarcat dans son sens négatif vis-à-vis des femmes, mais je pense qu'on n'entend pas assez qu'il dessert aussi les hommes qui n'ont pas envie d'être dans cette position de force tout le temps. Et je pense que c'est ça qui est important là dans ce que Grégory nous dit, c'est on est humain en fait finalement tous, et qu'on soit femme ou homme, on devrait pouvoir s'exprimer comme on en a envie, quelle que soit l'émotion qu'on ressent. Et je pense que c'est important effectivement d'écouter cette nouvelle génération qui déconstruit pas mal de choses et qui essaie de se faire entendre sur on a des émotions, on a envie de pleurer quand on a envie de pleurer, on a envie d'être fort quand on est fort. Et on a le droit d'être entendu, quel que soit notre état émotionnel ou physique, finalement.
Bien sûr, bien sûr. Et puis alors, il y a aussi peut-être le fait d'être un homme, ça ajoute une pression supplémentaire pour, on va dire, assurer matériellement. Est-ce que tu dénonces ça aussi, Grégory?
Oui, je dirais vraiment
parle
ça.
Bien en face du micro, Grégory.
Oui, je dirais plutôt ça, parce que déjà, il y a la pression sociale, la pression de répondre aux attentes de notre famille, de montrer qu'on peut le faire, un peu de tout.
Dans ta famille, c'est ce qui se passe? Parce que tu es un homme, on te dit tu dois être fort et tu ne le vis pas trop bien?
Je dirais pas trop dans ma famille, mais globalement. Parce que la plupart, des fois, quand je suis posé avec des amis, tout ça, quand on parle un peu de tout, à un moment, on peut parler d'un sujet, on va dire, ouah, c'est grave, émotif, c'est grave, sentimental, lui, ça fait pleurer, tout ça. À un moment, un de tes amis peut te dire, arrête de faire ta femme lettre.
Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quand même des hommes aujourd'hui qui t'inspirent, Grégory?
Oui, beaucoup, on va dire. Par exemple, Martin Luther King.
Oui.
Patrice Lumumba. Et quelques autres, on va dire, écrivains, tout ça.
D'accord. Et en parallèle, est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent?
Je dirais beaucoup.
Oui.
D'abord, on va préciser ma mère.
Oui.
Car c'est une femme
bel
qui
exemple.
M'a. Car c'est une femme qui m'a beaucoup appris. Normalement, dans cette société, j'étais plus dit, je devais plus me dire, je devais être fort, tout ça. Mais elle m'a appris comment montrer ses émotions, pas trop se renfermer, parce que plus tu renfermes tes émotions, plus à un moment tu vas craquer.
Tu t'enfermes, ouais, tu t'enfermes dans une spirale qui est pas positive. Alors Grégory, on a parlé de ces stéréotypes. On a parlé de la colère des hommes. Est-ce que tu penses que cette colère dessert les hommes, ou voilà, qu'est-ce que tu aurais à dire?
Après, je dirais plus ce sont des stéréotypes vraiment, parce que la colère des hommes, c'est quoi? C'est une idée vague vraiment, on va dire, quand un homme un peu énervant, on va dire, ouais, il est en colère parce qu'il a fait ça. C'est quand un homme il pleure, on dit il est en colère, ou quand une femme elle pleure, on dit elle est triste.
Oui, absolument.
C'est des idées qu'on nous met dès l'enfance, on va dire.
Et donc ça, c'est vraiment, il faut essayer de lutter contre. Et ton envie de parler de ce sujet aujourd'hui, est-ce que c'est un petit peu aussi en réaction par rapport à tous ces points de vue féministes dont on parle beaucoup aujourd'hui?
Je dirais oui.
Oui.
Parce qu'on aborde plus le sujet sur les femmes, mais on n'aborde pas vraiment sur nous les hommes.
Oui. Tu penses que ces féministes, elles ont elles donnent une image un peu toxique des hommes? Et toi, et ce qui est une réalité, hein, c'est, il n'y a pas que des hommes toxiques, heureusement.
Après, je dirais oui. Des fois, plus qu'on est plus rapporté sur la protection des femmes et tout ça, et on s'éloigne plus de ce que nous, les hommes, on ressent. on va dire.
Oui, je pense que là, c'est important. Laïssa. C'est important de distinguer le combat pour les femmes du combat pour les hommes, parce que finalement, de ce que Grégory nous en dit, bah, y en a un qui doit être important aussi dans les débats. C'est, bah oui, on se bat pour les droits des femmes, pour l'égalité, etc. Mais justement, cette égalité, elle passe aussi pour les hommes dans le droit d'être qui ils sont avec leur personnalité et pas coller à un cliché, en fait.
Est-ce que on pourrait imaginer que, et il me semble que quand même c'est le cas, que les féministes et les jeunes hommes peuvent s'allier pour redéfinir la masculinité? Je vois Nassim qui fait un grand oui. Grégory?
Je dirais oui aussi.
Oui, oui. Et donc, une alliance n'est pas utopique. Elle peut être réaliste.
Oui, elle peut être réaliste. Parce que si on marche tous main dans la main, on essaie de se comprendre, on pourrait abolir ces images qu'on a du sexe féminin, du sexe masculin, on va dire.
Alors, il y a aussi un problème de génération. Parce que toi, tu as cette envie, hein, justement, de rétablir un équilibre. Est-ce que tu penses que ton père, ton grand-père, était dans la même réflexion?
Je dirais mon père, pas mon grand-père.
Ouais.
Quand mon père me parlait plus de mon grand-père, il me parlait plus d'un homme vraiment sérieux et qui essaie de l'apprendre à vraiment être un homme, être dur et tout ça. Mais mon père, lui, il m'a pas appris ça. Lui aussi, comme ma mère, il m'a appris à savoir exprimer mes émotions, savoir ressentir, savoir pleurer des fois. Parce que, oui, on est un homme, certes. On doit montrer toujours notre force. Oui. Mais des fois, on a des moments de faiblesse. Et on doit savoir les exprimer.
C'est ça, ne pas les cacher.
Ne pas les cacher.
Merci, Grégory. Merci pour ce témoignage. Benjamin, tu veux nous ajouter quelque chose?
C'est là aussi on voit la différence à travers les générations, que la manière de penser, elle est pas du tout pareille.
Bien sûr.
Que voilà, il y en a, voilà, c'est là qu'on dit ce qu'ils appellent l'ancienne école, ce qu'ils disent à la vieille école, c'est que voilà, ils ont été éduqués comme ça, mais la nouvelle génération elle est plus ouverte et elle n'a pas forcément la même éducation et les mêmes préjugés qu'on a sur les sexes.
Merci Benjamin, on est bien d'accord que tout ça c'est une question d'éducation. Nassim, tu veux peut-être aussi témoigner sur ce thème?
Un peu personnellement, surtout que principalement ce qui ressort beaucoup de tout ça, surtout personnellement, c'est que énormément des problèmes que dénonce le féminisme à l'origine sont aussi une conséquence directe de la façon dont sont éduqués les hommes et de la pression qu'on leur met à l'origine, tant de leur côté qu'aux filles.
Ouais,
les deux se rejoignent complètement.
C'est un bon résumé. Merci Nassim. Eva, ton avis sur ce thème?
C'est vrai qu'on parlait de la société patriarcale et ses effets sur les femmes, l'oppression des femmes. Mais c'est vrai qu'on oublie aussi la santé mentale des hommes. Et que du coup, il ne faut pas oublier du coup que chaque individu, indépendamment de son sexe, peut avoir des problèmes, que ça soit lié à la société ou non, et qu'il faut s'écouter.
Il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Merci à tous les quatre, hein, pour votre, enfin tous les cinq même avec Laïssa, pour avoir abordé ce thème qui, je pense, pourrait revenir dans une autre émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais merci beaucoup. On marque une pause, hein, donc avec un morceau que vous avez choisi. Est-ce que quelqu'un peut nous donner le titre, hein, l'un d'entre vous, Grégory?
Kiko, Terre de nos aïeux.
Merci Grégory. Et on se retrouve tout de suite après.
Golden. content quand je porte mes cris vers le ciel. Quand ton as était rempli, tu me laisses le poivre et le sel. Et nous, m'ignorons à dans les roumis, vois, tu ne peux pas le dire. Même si toi, tu ne regardes plus les prix, mais t'en vas que. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit lundi ou lundi, les mains vides, ils m'ont répondu. Y'a Dieu qui peut t'écouter. Même en vivant le pire, j'ai gardé espoir parce que d'où je viens, on dit, même dans le noir, yeah. Dans le noir, mettons la bâtie, dis comme un ami au couaud. Jeunesse, les mois, mes diplômes, mes voix d'Oyoleti. La terre de nos aïeux, l'or de l'humanité. En terre, les rêves de ses fils sont toute impunité. Et si maintenant je parle, c'est parce que j'ai trop mal. Est-ce que ça fait de moi un fou? Maintenant je parle, est-ce que ça fait de moi un fou qui chante la douleur des gens d'en bas, qui chante la douleur des gens d'en bas. Je sais ce que tu vis, Fagoudi vous voulions à nos bimbalos, les calas iwagnons à sigbalos, les calas iwagnons à sigbalos. Quand ma tête, mon quartier sont sous l'eau, comment me taire, comment pousser mes mots. Je sais que ton cœur soupire vers la liberté, ton destin est de retrouver ta dignité. Pour la terre de nos aïeux, c'est ce que je veux sur la terre de nos aïeux. Et je veux réussir pour mon pays, je pleure pour mon pays, je meurs pour mon pays, la terre de nos aïeux.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
C'est la parole aux jeunes aujourd'hui, dimanche 1er février, et nous donnons la parole aujourd'hui à quatre jeunes de la vallée locale, vallée Montmorency, Grégory, Eva, Nassim et Benjamin. Alors Eva, toi tu as, de par ta, ce que tu as envie de faire plus tard, tu as envie de nous parler de l'IA générative pour les artistes illustrateurs, c'est bien ça?
Oui.
Alors, sous quel angle veux-tu aborder ce sujet?
L'idée que des gens s'autoproclament artistes IA en utilisant de l'IA générative tout en ne savant pas ou non, en le sachant pertinemment, que l'IA générative, elle, pour qu'elle fonctionne, elle va en fait piocher dans du contenu qui est déjà existant.
Oui, et puisqu'on sait que l'IA se nourrit des propres demandes que chacun fait, et donc oui. Ça enrichit son contenu.
Oui, en fait, à partir du moment où, de ce que je sais, à partir du moment où on publie une illustration, une œuvre sur Internet, en fonction des IA, l'IA peut du coup, piocher cette illustration et s'en servir de modèle pour, en fonction du prompt qui est tapé. Et le problème que font face les artistes qui font numériquement ou traditionnel leurs œuvres, c'est que non seulement l'IA copie leur travail, mais aussi elle ne les crédite pas. Elle ne les cite pas comme source d'inspiration, on va dire. Et aussi, elle ne les rémunère pas. Mmh. Elle ne gagne pas d'argent sur le travail qui a été utilisé.
Le problème, il est là, surtout. Quoi.
Oui, c'est ça. Mmh.
Un manque de reconnaissance et un manque de revenus.
Oui. Et déjà que le métier peut être assez... Il y a beaucoup de partage dans la communauté, mais aussi beaucoup de compétitivité forcément, puisque voilà, il y a beaucoup d'artistes en indépendant qui essaient de se promouvoir comme ils peuvent. Et là-dedans, ce qui est reproché aussi, je pense, le problème avec l'IA générative, c'est ce que je viens de citer, mais aussi c'est le fait qu'elle soit accès au grand public.
Oui.
Que du coup, comme elle est en grand public, et l'IA, c'est pas forcément que dans le l'art, ça peut être aussi dans générer des voix, générer des vidéos, etc., qui sont de plus en plus réalistes. Donc on a tendance à ne pas savoir quel est
on ne sait plus qui fait
est,
quoi
qui et est qui est réel qui on, est qui ouais. On pose souvent la question est-ce que c'est de l'IA ou non souvent
absolument.
Et donc avec l'IA c'est que ce qui pousse les gens je pense à utiliser l'IA générative c'est parce qu'ils ne veulent pas forcément payer un artiste soit parce qu'ils n'ont pas les moyens soit parce qu'ils n'ont juste tout simplement pas envie et déjà que beaucoup de gens considèrent le métier d'artiste comme étant pas un vrai métier voilà enfin j'ai déjà vu des réflexions sur internet où on nous dit non mais tu ne travailles pas tu dessines
tu t'amuses
alors que le dessin oui c'est à la base c'était un oui c'est un ça peut être un passe-temps mais ça peut aussi être professionnalisé
complètement
et qu'on fait ça à plein temps et je pense que ça c'est lié au fait qu'on dit souvent que les dessinateurs sont talentueux sauf que le talent c'est pas que naturel
ça se travaille aussi
ça se travaille quand j'étais petite à 3 ans je faisais des bonhommes patates comme beaucoup de ou des bonhommes bâtons comme tout le monde et je trouve ça dommage que à l'enfance on introduit assez facilement l'illustration, le dessin, l'expérimentation avec la peinture, différentes activités manuelles, mais que plus on grandit moins ça donne envie. Notamment moi qui aimais bien le dessin à l'école je trouvais que l'art plastique c'était pas forcément
La façon dont c'était enseigné ça donnait pas envie.
Déjà je pense que ça part de ça et donc pour revenir à l'IA il y a aussi donc il y a tout ça le fait que ça soit pas considéré comme un vrai métier
Oui, et puis alors il y a ce problème de rémunération que tu as très justement dit, hein, c'est un sujet brûlant. Et alors je crois qu'il y a la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, la DACB, qui a saisi d'ailleurs la justice en 2025 pour demander une rémunération collective des artistes dont les œuvres ont servi à entraîner des IA. Donc c'est un vrai problème. Eva, tu as dit quelque chose d'important. Tu as parlé de la façon dont les arts plastiques étaient enseignés quand tu allais à l'école. Est-ce que ça te donnerait envie, toi, d'enseigner, justement, pour donner une autre méthode?
Alors, pour l'instant, je ne me vois pas animée. En fait, j'y ai pensé parce que j'ai suivi quand j'étais au lycée, j'ai suivi des cours dans un atelier en dehors des cours. Et je trouvais que l'approche était différente. Comme là, on choisit d'intégrer le cours, on a plus envie d'y aller. C'était assez convivial. On pouvait faire une pause, prendre le temps de discuter, etc.
Oui, c'était plus sur la base de l'échange.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'aussi, peut-être que c'est aussi, personnellement, peut-être que je préférais simplement l'art narratif, donc l'illustration, la bande dessinée, que les arts plastiques, parce que c'est pas exactement la même chose.
Oui. Et donc toi, l'IA, tu la vois comme une menace ou comme un outil?
Un peu des deux.
Les deux, ouais.
Un peu des deux parce que oui, j'ai des amis illustrateurs comme moi, enfin qui veulent devenir artistes auteurs et qui ont déjà utilisé leurs propres dessins sous forme de avec de l'IA générative pour essayer de trouver faire des recherches graphiques pour le résultat final de leur œuvre, mais ils s'en servent juste comme un outil. Moi, où c'est le plus le problème, c'est ceux qui ne sont pas artistes et qui, du coup, s'en servent à but pour être vendus. C'est ça où j'ai le problème. À la limite, il y a des gens qui font des générations d'IA un peu parodiques, un peu comme des mèmes, il n'y a pas de rémunération derrière, c'est juste pour s'amuser, et moi aussi ça me fait rire, et on voit tout de suite que c'est de l'IA, parce que c'est un peu mal fait.
Oui, tu sais repérer aussi tout de suite.
Ça dépend, parce qu'il y a de l'IA qui est très très bien faite. Je me souviens, à une époque, il y avait un concours d'illustration, et la première place a été donnée à une image générée par IA.
D'accord. Oui. Et donc, sans qu'on ne sache que c'était de l'IA, on le savait?
Alors, je crois qu'on ne savait pas.
On ne savait pas.
Parce que le problème avec l'IA qu'on reproche, ce n'est pas le fait que ça soit super bien fait ou non, parce que ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'éthique, plutôt.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis aussi, peut-être, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une illustration un peu standardisée? Parce que forcément, même si l'IA travaille bien, on peut retrouver des standards.
Forcément, en fait, ouais. L'IA, souvent, l'IA en plus, elle est utilisée sur différents supports, pas que le papier, aussi sur des coussins, sur des objets du quotidien, des chaussons. Et je trouve que l'IA, elle a un rendu graphique qui est assez... assez distingué.
Oui, assez réaliste quand même.
Ça fait un peu réaliste, mais un peu étrange. Je trouve. Oui. En fait, je trouve que ça c'est très... j'arrive vraiment parfois à repérer vraiment que c'est de l'IA, parce que ça, c'est vraiment un style particulier, le rendu. Et, oui.
C'est très, très intéressant ce que tu nous dis, Eva. Vraiment, c'est un thème qu'on n'avait encore jamais abordé. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Benjamin, tu veux ajouter quelque chose?
Ouais, et puis surtout que quand on voit l'IA, en fait, quand on voit l'image, ça se voit tout de suite que c'est fait par de l'IA, parce que l'image...
Ah ouais, toi, tu le repères tout de suite.
Ouais, en fait, parce que elle est floue. Ou par exemple, parce que moi je fais des miniatures pour mes vidéos aussi.
D'accord.
Donc du coup, j'utilise souvent l'IA pour les miniatures, parce que quand il faut que je sorte une vidéo par semaine, il faut que je fasse ça rapidement. Donc du coup, je prends une photo de moi, je mets le jeu que j'ai en question. Et en fait, ça se voit tout de suite que c'est fait de l'IA, parce que mon visage, il est complètement déformé.
Bien sûr.
Donc c'est con, mais c'est complètement... Mais par contre, quand par exemple, il y a eu justement, comme pour Clair Obscur, ça se voit pas tant que ça que c'est fait avec de l'IA, qu'en fait, graphiquement, que c'est fait avec de l'IA. C'est que quand, après ça, ça a du spot, quand on sera arrivé à vers la moitié du jeu, qu'on va découvrir qu'il y a un peu d'IA. Qu'il y a un peu d'IA. Mais sinon,
donc, il faut être très aguerri quand
même. Il faut
même,
être très aguerri pour voir pour si c'est favorable d'IA.
Merci Benjamin. Laïssa, tu voulais nous dire quelque chose?
Oui, parce que je trouvais ça important aussi, justement, tout ce qui a été dit.
Ah oui.
Il y a juste un truc que je voulais relever, justement, sur le tarif. Parce que je trouve que c'est important, justement, de savoir se positionner sur combien est-ce que ça coûte un vrai travail d'artiste. Alors, j'entends que certains n'auraient peut-être pas les moyens, mais dans ce cas-là, penser le projet autrement, en fait, parce que ça dessert complètement les métiers d'artiste, enfin tout métier artistique finalement, de pas savoir, alors pour les personnes qui se lancent, de pas savoir comment on donne une tarification de son temps de travail, de son matériel et autres, et bah justement avec des tarifs qui sont très bas parce que générés par l'IA, ça décrédibilise en fait tout le reste des devis qui peuvent être faits. Et des fois, il y a des situations où on est confronté à, il y a une entreprise, par exemple, qui a généré avec l'IA et qui se retrouve coincée parce que derrière, ils veulent faire une animation à partir de l'IA et c'est pas possible, en fait. Mm-hmm. Parce que l'IA ne peut pas...
Oui, elle a ses limites.
Oui, c'est ça, en fait. Reprendre une illustration pour l'animer, ça demanderait, en fait, finalement, beaucoup plus de compétences que d'avoir pris au début un artiste qui est compétent, qui peut générer lui-même l'illustration avec son propre style, et où le personnage, il a pas d'un coup 6 doigts qui lui pousse... Alors, ça arrive de moins en moins, mais de temps en temps, quand même, il y a des petites surprises. Et justement, que ce soit cohérent sur tout un projet ou tout un cycle de projet, de rester avec le même artiste, avec son style à lui, et qu'on choisit spécifiquement parce que cet artiste a ce style-là qui correspond, et derrière, de rémunérer comme il faut. Et je pense que ça devrait aujourd'hui être parmi les cours qui sont dispensés quand on veut se lancer dans une carrière comme ça, c'est de savoir chiffrer son travail, parce
complètement,
que c'est important.
Oui, parce que c'est une vraie question, ouais. Tu as raison. Laïssa de le souligner. Eva, j'ai une question à te poser. Est-ce que, puisqu'on parlait du rapport homme-femme, est-ce que c'est un métier qui est, il y a une parité ou il y a plus de femmes, plus d'hommes dans les illustrateurs? Si tu as une idée, hein.
Moi, il me semble que c'est à peu près moitié-moitié.
Oui. C'est assez réparti.
On croise de tout sur Internet, sur Instagram, sur différents réseaux sociaux.
Et donc, tu voulais nous ajouter quelque chose, Eva?
Oui, c'était justement, je reviens sur ce qu'a dit Laïssa sur. Sur le tarif, c'est que en fait dans le dessin, quand on ne nous apprend pas assez sur la professionnalisation. Je l'ai vraiment appris en dernière année d'école d'art quand on a une conférence qui nous a appris vraiment qu'il faut faire des démarches pour se déclarer, pour montrer que c'est sérieux.
Il faut savoir se vendre quelque
oui.
part.
Ouais. Ça, on ne l'apprend pas forcément. Ah, on apprend oui. plus à... Ce que j'ai appris à l'école d'art, c'est de prendre des commandes qu'on pourrait me donner, que des maisons d'édition pourraient me donner, à créer une histoire, un scénario, etc. Mais on nous a pas forcément appris tout le côté après administratif, tout le côté salaire.
Oui, au tout camp chef d'entreprise finalement.
Oui, c'est
hein?
ça.
Oui.
Que c'est souvent
donc tu le déplores un petit peu. Merci infiniment Eva aussi pour ton témoignage et puis nous avoir comme ça sensibilisé sur ce domaine des illustrateurs. Merci à toi. On marque une nouvelle pause et alors qui est-ce qui nous donne le titre cette fois? C'est toi Eva?
Alors c'est l'artiste BTS et leur musique c'est Make It Right.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours la parole aux jeunes avec aujourd'hui quatre jeunes, Grégory, Eva, Nassim et Benjamin, accompagnés par Laïssa de la mission locale Vallée-Montmorency. Juste une petite, un petit supplément par rapport à ce que Eva nous a dit. Laïssa, tu nous as cité une artiste, CY. Juste, tu nous en dis quelque chose, quelques mots.
Oui, c'est une artiste, je trouve, qui est très engagée sur ses réseaux sociaux. Alors, elle publie pas mal de bandes dessinées qui sont magnifiques parce qu'elle travaille avec, pas en numérique, mais à l'aquarelle ou au crayon de couleur aussi beaucoup. Donc déjà, c'est magnifique. Mais en plus, sur sa chaîne YouTube et sur Instagram, elle a aussi des vidéos qui rejoignent un petit peu tout ce qu'on a dit avant. Sur le fait que le talent c'est pas inné, que ça se travaille, et comment chiffrer un peu justement ces projets. Elle a pas mal d'informations pour les artistes auteurs qu'elle diffuse, et c'est intéressant d'aller
donc,
regarder.
Tu recommandes vraiment d'aller sur sa chaîne YouTube.
Je la trouve hyper claire sur ses explications.
Merci Laïssa. À présent, on aborde un sujet alors complètement différent, et c'est Nassim qui va nous en parler. On va parler des sports de combat et des arts martiaux, et surtout des préjugés qui tournent autour de ces sports. Donc Nassim, pourquoi avoir envie de nous parler de ce sujet aujourd'hui ?
Merci à toi. J'avoue que principalement à l'origine, c'est parce que je parle en tant qu'ancien pratiquant d'arts martiaux.
Oui.
Arts martiaux que j'aimerais reprendre dès que possible. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire.
Non.
Ça, je pourrais. C'est surtout plutôt que, notamment après avoir arrêté d'en faire pendant un temps, surtout pendant le Covid, en fait.
Ah oui, ça a mis un frein à...
J'étais judoka pendant plus de 10 ans. Et
d'accord.
J'ai arrêté pendant le Covid, pour des raisons évidentes. Mais c'est que depuis cet arrêt, un peu par hasard, mais aussi parce que j'ai fait du judo, c'est vrai... J'ai eu une passion grandissante qui croît encore aujourd'hui. Donc, mon intérêt, toute l'attention que je pouvais y porter ou le rapport que j'y avais évolue avec le temps. Et ça m'a fait me rendre compte du fait que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de préjugés sur ces pratiques sportives en général.
Oui.
De manière très variée, de manière très généralisée. Et j'ai cette impression alors que j'ai quasiment jamais interagi avec des artistes martiaux passionnés. Ou à l'inverse, des personnes foncièrement, qui détestaient foncièrement ces pratiques-là.
Ces pratiques, oui. Un des préjugés, peut-être, le premier qui peut venir à l'esprit, c'est les arts martiaux ou les sports de combat, c'est violent.
Par exemple.
Donc toi, qu'est-ce que tu dis à ça?
Dans l'idée, c'est tout à fait compréhensible de se questionner là-dessus ou d'avoir un peu peur de ce que ça peut donner, mais les arts martiaux se résument pas, je pense, ça j'en suis sûr, pour l'avoir pratiqué et avoir discuté avec plein de personnes dans ces domaines-là, ça se résume pas simplement à apprendre à taper. Énormément, si ce n'est peut-être tous, ont énormément de valeurs, de codes moraux. Je parle pour le judo, le karaté et beaucoup d'autres arts martiaux. Il y a plein de valeurs qui sont inhérentes à ces domaines-là, qui sont tout aussi importantes que le fait d'être présent en cours, que le fait d'être efficace, de se donner à fond. Ça fait partie intégrante de ces domaines-là, et c'est l'une des choses que les pratiquants en arts martiaux, que ce soit pendant un long moment ou non d'ailleurs, obtiennent, et ce dans quoi ils se reconnaissent.
Oui.
Et c'est à ça qu'on donne la priorité.
Mmh.
Et c'est souvent invisibilisé et rabaissé juste au simple fait de rendre les gens violents.
Oui, envie d'être violent, alors
brutes,
que pas du tout, il y a toute une... C'est vrai. Est-ce qu'il y a aussi il y a le stéréotype des genres, c'est-à-dire que c'est plutôt réservé aux hommes?
Ça, j'en ai pas l'impression.
Non.
Heureusement,
non,
ce serait plutôt que pour les personnes qui n'en font pas du tout, qui s'en fichent, voire qui n'aiment pas ça, pour plein de raisons différentes, j'ai l'impression que ça a souvent tendance à être relégué par... les deux, hein, pas l'un ou plus l'un que l'autre, au rang de pas une activité forcément juste violente, même s'il y a de ça, c'est surtout qu'on rabaisse les personnes précisément qui en pratiquent, et généralement c'est sur les hommes que c'est dit,
oui.
À savoir qu'on les résume à des brutes épaisses, des personnes qui ne font que utiliser la violence en général, incapables de réfléchir, et ça rejoint peut-être même un peu aussi le stéréotype beaucoup plus généralisé de faire de se moquer des sportifs sur leur capacité intellectuelle en général, qui lui pour le coup ce stéréotype-là est beaucoup plus répandu, beaucoup plus commun. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça, ce mépris d'un truc qu'on connaît pas,
oui.
Qui
oui,
part d'une inquiétude tout à fait compréhensible majoritairement pour les parents, à devenir presque du mépris en invisibilisant énormément de choses.
Alors, les arts martiaux, est-ce que un préjugé aussi, dire qu'ils ne servent à rien dans la vie quotidienne?
Ça aussi, c'est totalement faux.
C'est un vrai préjugé.
Oui, c'est, alors, je n'ai pas beaucoup entendu, j'ai pas entendu beaucoup de gens dire que c'était inutile. Ça a parfois même tendance à être l'inverse, à savoir que beaucoup de gens idéalisent soit les arts martiaux, soit les pratiquants, dans le sens que ça rendrait invincible ou dangereux, etc. Mmh. Mais c'est lié au fait qu'on résume ça justement à une pratique physique ou dite violente. Mais il y a tout un ensemble de valeurs, de règles, peut-être même de philosophie de vie, même de manière plus approfondie.
Oui, c'est un moyen probablement d'acquérir de la confiance en soi, d'adopter une discipline. Enfin, donc, toi-même, quand tu faisais du judo, tu appliquais ces principes que tu appliques peut-être toujours d'ailleurs, parce
ça
que
a beaucoup
c'est
joué
ancré,
en ce qui
c'est
me
comme
concerne,
une éducation.
Avoir commencé ça jeune, ça joue forcément, mais c'est vrai que principalement le respect et la discipline, ça revient beaucoup dans énormément de sports. Mais s'il fallait en donner un qui est commun à tous, c'est le dépassement de soi, ouais, cette notion-là. Ouais. Ça, elle est
donc,
très
rien que ça, ça vaut pour tout. Est-ce que le préjugé de dire que c'est trop cher et élitiste, tu le rejoins ou pas?
J'avoue que sur ce point-là, je ne sais pas du tout. Pour moi, je sais que dans ma pratique du judo, ça avait un coût.
Oui.
Mais je ne sais pas du tout si c'est vraiment, si les moyens sont, il y a vraiment besoin de moyens, mais je sais que c'est variable.
Ça peut Après, il y a beaucoup varier. De villes, enfin, je veux dire, pour les jeunes, c'est plutôt accessible, hein, les enfants.
Semble, oui.
Voilà, c'est des pratiques qui sont, Benjamin.
C'est comme dans la moitié de, c'est comme dans la plupart des sports maintenant, hein, parce que voilà, ça coûte cher, etc. En l'occurrence, moi qui a vu les tarifs pour les arts martiaux, je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est voilà, c'est pas si cher qu'en gros ce que les gens disent.
Oui.
Par exemple, moi je veux dire, mettez inscrivez à votre enfant au basket ou même pire au tennis. Là, par contre, là, je peux vous dire que là c'est cher.
Ouais.
Après aussi, s'il veut dire plus cher avec la licence et après avec le matériel. Effectivement, ça a un coût. Mais par exemple, moi, je sais que pour les arts martiaux, la licence, elle est pas si chère que ça. Comparé au tennis, où par exemple, mon entraîneur, il a quand même eu pour 1000 euros de licence.
Ah oui.
1000 euros. Pour que sa fille fasse du tennis.
Ouais.
Que ça a quand même un coût. Moi je trouve que voilà, quand ils disent que c'est cher, je suis pas d'accord.
Ouais, on n'est pas,
je suis pas d'accord.
C'est un mauvais préjugé.
Exactement.
Laïssa.
Oui, je voulais compléter un peu ce que tu disais. Aussi, je pense que ça dépend déjà l'âge auquel commencent les enfants. Si c'est un club de la ville, si c'est un club privé, ça dépend du sport et du matériel qui est déjà fourni par le club. Donc je pense que au vu de ce que ça peut apporter à un enfant en termes de discipline, de respect, etc., c'est peut-être pas si cher payé finalement.
C'est ça, absolument. C'est pour tout le bienfait que ça apporte, parce que je crois qu'aussi au niveau santé, c'est plutôt très positif, hein, les arts martiaux.
Tout à fait, ça a énormément de bienfaits sur énormément de points différents. Il y a tant la confiance en soi que l'éducation, la discipline, les valeurs.
Peut-être une hygiène
que
de vie
tout le côté
aussi.
Santé et hygiène de vie, ça a énormément de bienfaits.
Bon, donc tu reprends quand, Nassim, les arts martiaux?
Ça, pour le coup, j'avoue que j'en sais rien du tout.
Si c'est pas.
Et j'ai, à titre personnel aussi, peut-être l'envie d'en découvrir d'autres, pour avoir passé 10 ans dans le même domaine.
Oui.
Je me questionne un peu sur ça, j'avoue.
Très bien. Bah, écoute, peut-être que la prochaine fois que tu viendras, tu nous diras si tu as repris.
Peut-être.
Merci, Nassim. Grégory, Eva, un avis sur les arts martiaux?
Oui, moi j'ai deux avis. Le fait que j'ai vu souvent qu'il y avait une augmentation de femmes qui pratiquent des sports de combat. Notamment pour essayer de se défendre.
Oui, dans, il y a le Krav Maga qui est pas mal pratiqué.
Par rapport au harcèlement de rue, dans les transports en commun. Alors, personnellement, je suis pas très sport, donc j'ai jamais fait de sport de combat. Mais après, je trouvais que c'était plutôt une bonne initiative. Après, il y a le côté théorie et après il y a la pratique.
Bien sûr.
Le but c'est de ne jamais se faire harceler, mais si ça devait arriver, est-ce que ces femmes, enfin les femmes qui pratiquent ce sport, pourraient du coup mettre en place tout ce qu'elles ont appris?
Ah oui. Des témoignages
face à un potentiel agresseur, parce que l'agresseur, lui en face, c'est pas quelqu'un va pratiquer qui va pas du tout utiliser de méthodes pour s'en prendre à elle. C'est il y en a qui peuvent être armés, enfin on sait pas, et du coup j'espère que ça peut les aider.
Ça sert vraiment.
Voilà, bon,
c'est vrai qu'entre pratiquer une discipline et puis se retrouver en situation comme ça d'agression, il y a un monde et il faut, avoir pu acquérir toute cette confiance en soi pour réagir.
Oui.
Merci Eva. Nassim ?
Mais c'était pour rebondir sur ça, c'est que c'est très cool que tu le mentionnes, surtout qu'en plus j'ai oublié de le faire, mais oui, il y a toute cette dimension-là et énormément se posent des questions similaires. Là, que ce soit pour une femme qui veut pas se faire harceler, qui peut prendre une pratique sportive pour éviter justement savoir quoi faire dans ces moments-là, ça rejoint de manière globale des questions que beaucoup de gens se posent, mais à savoir principalement, est-ce que un art martial, voire même après, et approfondir la question de savoir lequel serait le meilleur pour se défendre dans la rue, c'est qu'on oublie souvent, qu'on soit pratiquant d'arts martiaux ou non, que la vraie vie n'a rien à voir avec le cadre d'un art martial.
Ah oui.
Il n'y a pas d'arbitre, pas de protection, pas de règles, pas de tatami, pas de catégorie de poids. Comme elle l'a dit, il y a les exemples de gens armés ou non. Il n'y a aucune notion de règles. On n'est pas forcément contre un seul opposant. Les critères sont extrêmement élevés.
Ouais.
Et de ce que j'ai pu entendre de la part de beaucoup de passionnés et de professionnels, le mental joue énormément. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible de savoir concrètement comment on réagira à l'avance. Et tout se joue beaucoup là-dessus.
Bien sûr.
Même avoir des années de pratique, voire même être une championne ou un champion, si sur la situation,
il peut y avoir une situation
donné,
complètement déstabilisante. Oui.
Voilà.
Merci Nassim. Grégory, tu voulais intervenir sur la pratique des arts martiaux?
Du coup, moi, mon avis sur la pratique des arts martiaux, ce qu'elle apporte, pour moi, personnellement, c'est un état d'esprit. Mmh. Et ça permet vraiment de nous canaliser et de permettre à... extérioriser.
Oui, extérioriser, ouais. Oui. Toute la colère qu'on peut avoir. Et puis voilà, c'est OK. Merci à tous les quatre de ce nouveau témoignage. Eh bien, nouvelle pause avant de donner la parole à Benjamin, parce que je sais que Benjamin, il a toujours beaucoup de choses à nous dire.
La musique qui va suivre s'appelle Lumière, qui est l'une des OST principales du jeu Clair Obscur.
Dim, dam, dalilam, vacarme, s'en va dans lumine éternam, et Gustav, dom guardiam, dili, 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 la, l'outes sera dorilom, seram. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dim, dim, da, 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 dim, dim, da, 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 dim, da, di, dam. Dans là-haut sera ravi, les toits à se renoir, gris. Fera clair obscur trouble de rature comblera effet clair obscur bordé aux peintures trouvera sans elle clair obscur trouble de rature comblera effet clair obscur bordé aux peintures trouvera sans elle. Thank you. fresque, tremble de rature, courbera Eiffel. Clair, obscur, voir des hauts peintures, trouvera sans elle. Clair, obscur, trouble de rature, trouvera Eiffel. Clair, obscur, voir des hauts peintures, trouvera sans elle.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Dernière ligne droite pour cette parole aux jeunes qui reçoit aujourd'hui Laïssa, Nassim, Benjamin, Grégory et Eva de la mission locale de la vallée Montmorency. Et c'est Benjamin qui va nous parler des jeux vidéo et aussi des stéréotypes hein, donc de sur ces jeux vidéo. Donc Benjamin, qu'est-ce que tu as envie de nous dire ?
Bah que déjà un jeu vidéo c'est pas que c'est déjà par rapport aux stéréotypes c'est pas que pour les filles que ouais. Ce qu'on pourrait imaginer
peut-être aussi c'est pas que pour les ados c'est attardés que,
voilà c'est ça c'est pas que voilà je parle aussi pour les parents je parle ouais. Aussi pour les parents c'est pas parce que votre enfant il est devant la télé à longueur de journée que en gros il fait rien de qu'il fait rien. Et voilà, c'est
oui, c'est pas vide en tout cas, tu voilà. Sais, ça peut apprendre plein de choses. Mmh. Ouais.
Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé à les jeux vidéo par exemple. Donc voilà,
toi-même tu qu'est-ce que tu pratiques comme jeu vidéo ?
Moi je joue un peu tout.
Ouais.
Genre, je joue un peu tout donc RPG donc les jeux de rôle, jeux d'arcade, jeux de combat, jeux d'aventure. Je m'intéresse un peu à tout. Donc d'ailleurs parmi ces jeux RPG, il y a un jeu qui a failli remporter le jeu de l'année.
D'accord.
Le jeu de l'année Clair Obscur.
On y revient.
Oui, Expédition 33. Très bon RPG que je recommande. Très bon RPG comme on l'a dit dans l'émission plus tôt, voilà, qu'il a été fait avec l'IA, mais voilà, l'IA c'est l'essence même du jeu vidéo. Depuis que ça a été créé dans les années 90, il y avait toujours l'IA. Donc je prends l'exemple de Mortal Kombat, de Tekken pour les ennemis, etc. Donc ça, donc c'est vraiment pris. Donc je prends même un exemple GTA pour les personnages non joueurs. Donc après il y a un autre jeu que je recommande fortement pour les grands fans de RPG, Elden Ring Nightreign, qui est pour moi le deuxième meilleur jeu RPG de l'année.
D'accord.
Mais pour une fois, c'est pas un jeu qui a été fait avec des règles qu'on connaît maintenant, c'est surtout des trucs qui a été fait à l'ancienne.
D'accord.
Donc ça qui rend le jeu plus intéressant et plus authentique.
Est-ce que tu dirais que les jeux vidéo rendent violents ?
Ça dépend.
C'est ce qu'on entend souvent.
Oui, hein. C'est ce qu'on entend souvent. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. Parce que ça dépend comment on peut être. Par exemple, moi, je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 3 ans et demi. Et je n'ai jamais vraiment été violent. Par exemple, les gens dans la rue, ils me voient, ils me disent, t'es pas violent. Pourtant, je suis un geek. J'ai pas peur de le dire. Et pourtant, je suis pas violent pour autant. Donc après, ça dépend si après t'as eu un bon encadrement.
T'as été bien encadré, oui.
Donc voilà, donc c'est complètement ça dépend de l'encadrement qu'on a eu.
Alors tu nous l'as dit, donc c'est pas une perte de temps.
Hein, non.
c'est sûr, on peut se cultiver, mais quand même, ça reste un loisir solitaire.
Non.
Et du coup, qui te déconnecte un peu de la société.
Ouais, bah oui, ça peut déconnecter de la réalité, mais je pense qu'il y a des moments, on est tous à un moment donné, on doit un peu sortir.
Oui, sauf que l'écran, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un peu une addiction.
Voilà, c'est ça. Souvent. C'est comme la cigarette, c'est comme la cigarette. Mais sinon, il faut pas faire que ça, quoi, voilà. Par exemple, moi, à côté, je fais de l'athlétisme, donc oui. Voilà.
Tu as une vie qui est quand même saine
oui.
à côté des jeux vidéo.
Oui, voilà, c'est
donc
ça.
C'est un bon exemple. Complètement.
Exactement.
Pour l'ensemble de ce qu'on fait dans la vie, de toute façon, hein, c'est sûr. Laïssa.
Oui, bah du coup, Nassim m'a un peu enlevé les mots de la bouche. C'est une question d'équilibre, je trouve, d'encadrement, de choix de jeu, combien de temps on y passe. Mais je trouve que ça développe pas mal de compétences et il y a des entreprises qui s'en sont rendues compte parce que maintenant, il y a aussi des sessions de recrutement où on passe par les jeux vidéo pour repérer des compétences, pour savoir comment les gens arrivent à travailler ensemble, l'esprit d'équipe. Les réflexes, beaucoup aussi, parce que mine de rien, un jeu vidéo, si on a l'habitude de jouer, on a pas mal de réflexes, pas mal qu'on n'a pas du tout si on joue pas comme moi. Des raisonnements de logique, des raisonnements de logique aussi, je trouve beaucoup.
Ouais.
Et ça, c'est des choses, des compétences en fait, qui de plus en plus peuvent être valorisées par des entreprises lors des recrutements. Et je trouve ça vraiment bien, parce que ça s'adapte aussi au monde actuel et c'est important.
Benjamin.
Il y a aussi, c'est même devenu
c'est
même devenu un moyen de travail et puis de éducation. Mm-hmm. Il y a un prof d'histoire. Au lieu d'apprendre l'histoire, voilà, on met un cahier de, on me dit, tu me prends cette page, tu m'apprends ceci, tu m'apprends cela. Il a pris une console. Il a pris sa PS4. Il a joué à Battlefield. Et à d'autres où il raconte vraiment l'histoire telle qui s'est passée.
Il a trouvé un support pour pouvoir intéresser ses élèves.
Au final, les élèves, ils ont eu autant de bonnes notes parce qu'en fait, justement, ils s'amusent. Ils s'amusent en apprenant.
C'est ça, il a donné une méthode ludique et donc avec un très très bon résultat.
C'est ça.
Est-ce que ça coûte cher les jeux vidéo?
Ouais, quand même. Oui, c'est un coût effectivement.
Ça, c'est pas un préjugé donc.
C'est pas un préjugé, c'est vrai. Par exemple, enfin moi par exemple, j'attends, je fais toujours. Après moi, j'ai des bons plans.
Oui.
Parce que maintenant il y a une alternative, c'est que maintenant il existe des clés numériques où ils sont créés les jeux. Où il y a un code, on achète le code, etc. Et puis sur ces plateformes-là, ils mettent à des bons de réduction à 65%, etc.
Merci. Benjamin, le temps tourne. La prochaine fois que tu viens, je te donnerai la parole en premier, comme ça tu pourras t'exprimer un petit peu. Enfin, quand même, t'as participé tout au long de la mission. Mais c'était très intéressant. Merci pour cette étude sur les jeux vidéo. Ça nous a appris des choses quand même. Merci infiniment. Laïssa, tu veux rebondir avant la fin de l'émission?
Je trouve que tous les sujets ont été hyper bien expliqué par chaque jeune, chacun avec sa personnalité, chacun avec son point de vue. C'est quatre sujets hyper différents, mais je trouve que l'émission, elle a son importance pour les entendre. Et du coup, merci à eux, merci à la radio de leur donner la parole.
Ah ben non, moi c'est moi qui vous remercie d'être venu parce que à chaque fois, voilà, je vous remercie, hein, Nassim, Benjamin, Grégory, Eva, merci infiniment pour ces échanges parce que voilà, on comprend que l'avenir se construit avec vous et ça c'est le plus important. Et moi j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent que bah voilà, vous avez entendu que ces jeunes, ce qu'ils recherchent, ce sont des stages, des formations, des mentors et surtout une société qui croit en eux autant qu'ils croient en eux-mêmes. Donc Vous êtes, je le dis à chaque fois, mais vous êtes les bienvenus chez IDFM Radio et on sera toujours heureux de partager avec vous vos rêves et vos espoirs, vos envies. Merci infiniment. Merci Francky pour la technique et puis merci bien sûr à nos auditrices et auditeurs de nous suivre aussi fidèlement. À bientôt pour une nouvelle émission.